L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Après avoir évoqué la semaine dernière la situation géopolitique du Sahel, je vais revenir aujourd'hui à un sujet plus léger. La thématique dont il va être question est intimement liée à cette émission et à son identité. Je ne vous expliquerai pas en détail les grandes théories géographiques ou géopolitiques, ni vous raconter par le menu le sujet de ma thèse, mais plutôt vous parler du fil rouge qui relie tous ces éléments. S'il fallait trouver trois objets matérialisant ce fil rouge, je retiendrais un passeport, une map monde et un solide sac résistant aux chocs et aux intempéries. Vous me voyez certainement venir, je vais vous parler de ma conception et surtout de ce qui m'a donné envie de voyager. Cette passion remonte à l'enfance et n'a fait que se renforcer au fil des années. Elle a été nourrie par différents facteurs et aujourd'hui je la partage avec vous par le biais des chroniques hebdomadaires. Ce qui m'a donné envie de voyager, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Et tout d'abord, les récits de voyage de mon grand-père. Le premier contact que j'ai eu avec les contrées lointaines est venu de mon grand-père. Ayant fait toute sa carrière dans la marine marchande, il avait eu l'occasion de sillonner une partie des mers du globe. Lorsque j'étais gamin, il pouvait me raconter, des heures durant, ses traversées de l'Atlantique sous toutes les conditions climatiques. Il m'expliquait les conditions draconiennes qui étaient imposées aux navires entrant dans le port de New York, notamment l'interdiction d'utiliser les cheminées sous peine d'amende salée. En plein hiver, la traversée du Saint-Laurent au Canada pouvait prendre des dimensions homériques et il se retrouvait à devoir descendre en salle des machines avec ses équipes de mécaniciens afin de passer les tuyaux au chalumeau pour qu'ils n'éclatent pas sous l'effet du gel. L'une de ses escales favorites était la ville de Lima au Pérou. Il avait eu l'occasion de l'arpenter de long en large et parlait souvent des marchés de Lima où il lui arrivait d'accompagner le commissaire de bord pour faire le ravitaillement en produits frais. Récemment, j'ai retrouvé des clichés pris au cours de ces voyages et qui étaient stockés sur des plaques en verre. J'ai ainsi pu reconstituer une partie de ces périples au Venezuela, à Curaçao dans les Antilles néerlandaises, à Kingston en Jamaïque ou encore à Dakar. Je suis tombé sur un cliché de 1962 pris à Stanley Park à Vancouver, représentant des statues amérindiennes. 48 ans plus tard, sans le savoir, j'ai pris exactement le même cliché. Comme quoi, l'histoire peut faire de jolis clins d'œil. Les collections de timbres. J'ai été pendant longtemps philatéliste. J'avais repris le flambeau d'une tradition familiale. Les timbres constituent à mes yeux l'une des plus belles leçons de géographie. Lorsqu'ils sont apposés sur une carte postale venant d'un pays limitrophe ou de l'autre bout du monde, ils sont le signe d'une personne qui pense à vous. Une collection de cartes postales accrochées au mur peut constituer une map monde des plus originales. Alors, il est vrai qu'à l'heure de l'envoi instantané de photos ou de la diffusion en temps réel sur les réseaux sociaux, je trouve que la disparition progressive des cartes postales est dommage, mais il faut savoir vivre avec son temps. Outre la géographie, je trouve que les timbres sont aussi une formidable leçon d'histoire. Collectionner les timbres m'a fait découvrir les anciens pays du bloc communiste, et notamment tous les pays en ce temps, comme le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan. Ce constat est valable pour nombre de pays africains. La Rhodésie est devenue le Zimbabwe, la Haute-Volta est devenue le Burkina Faso, le Dahomey le Bénin. Les timbres permettent aussi de découvrir les grands monuments, l'Acropole à Athènes, le Taj Mahal, Chichen Itza ou encore les temples d'Angkor. La lecture de romans et de bandes dessinées. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ma passion pour les aventures de Tintin, qui m'a fait parcourir les quatre coins du globe. Par la suite, j'ai commencé à lire les aventures de Corto Maltese et je poursuis aujourd'hui cette découverte. Les lectures des romans de Jules Verne ont été une belle fenêtre sur le monde, même si celui-ci était en partie imaginaire. Je me souviens aussi d'une collection de la Bibliothèque Verte qui s'intitule « Médecin de l'impossible ». Ces romans racontaient les aventures du pédiatre Ludovic Delcourt et de la photoreporter Prune Noiret, deux volontaires de l'organisation humanitaire Urgence Médicale Internationale. Il parcourait le monde pour porter soin aux populations en détresse ou pour traquer des trafiquants en tout genre. Ses romans ont été écrits par deux spécialistes de la médecine humanitaire. D'une certaine façon, je me suis intéressé à la géopolitique assez tôt. Aujourd'hui, la lecture reste toujours étroitement liée au voyage. J'ai pour habitude, lorsque je pars en voyage, de noter la destination et l'année sur la page de garde du livre que j'emporte. Les récits de voyage, tels ceux de Sylvain Tesson, restent une inépuisable source d'inspiration. Voyager, un moyen efficace pour mieux se connaître. Les voyages forment la jeunesse et déforment les valises. Derrière cet adage quelque peu revisité, se cache une réflexion que je me suis souvent faite. S'éloigner de ses repères habituels et familiers peut être un révélateur de personnalité. Le goût du voyage peut s'acquérir plus ou moins tôt, et il n'est jamais trop tard pour en faire l'expérience ou pour demander son premier passeport. Voyager permet aussi de renforcer l'autonomie. Lorsque l'on voyage seul, le sens de la débrouille est primordial pour évoluer dans un environnement inconnu dont on ne maîtrise parfois ni la langue ni les pratiques culturelles. L'absence de repères oblige à aiguiser son sens de l'observation et de l'adaptation. Vous avez déjà certainement connu ce cas de figure où vous êtes perdu dans une ville, avec un plan à la main, sans savoir quelle direction prendre. À ce moment-là, vous cherchez l'aide de passants en utilisant le langage des signes lorsque cela est nécessaire. Un jour, je me trouvais à Erevan, en Arménie, et mon interprète ne pouvait pas m'accompagner. Après un entretien à l'ambassade de France, je me suis retrouvé à chercher un restaurant pour déjeuner. En 2008, les points de restauration étaient essentiellement arméniens et il n'y avait pas de fast-food occidentaux. Ne parlant pas arménien, j'étais bien embêté pour me faire comprendre jusqu'à ce que je trouve un restaurant où les serveurs parlaient français. Voilà comment je me suis retrouvé à manger un magret de canard à Erevan, un comble pour un périgourdin. Partir en groupe est également une belle expérience qui peut mettre la patience à rude épreuve, mais qui constitue aussi de beaux souvenirs. Certaines galères de voyage, comme un vol retardé, un bus qui tombe en panne ou un plat immangeable, sont le type de souvenirs qu'on ne se lasse pas de raconter. Partir loin de ses bases permet de découvrir ou de redécouvrir les personnes qui nous accompagnent. Les traits de caractère s'affirment et les amitiés peuvent se nouer solidement, tout comme elles peuvent aussi voler en éclats. Les voyages en groupe sont souvent l'occasion de vivre des moments de solidarité et d'entraide. Ainsi s'achève cette chronique consacrée à ma passion pour les voyages et aux racines de cette passion. Tant que mes jambes me porteront, je continuerai à parcourir le globe pour mieux le connaître et le comprendre. Au-delà de la découverte, le voyage est aujourd'hui pour moi un vecteur de partage. Partage avec les proches qui m'accompagnent pendant mes périples, et le partage avec vous via les ondes de Radio Campus. Je laisserai le mot de la fin à Sylvain Tesson dans son petit traité sur l'immensité du monde. La géographie a été inventée parce que des hommes à l'esprit curieux voulaient comprendre comment s'ordonnançaient les choses à la surface de la Terre. Ils entreprirent donc d'en dessiner le portrait. Mais pour dessiner la Terre, il faut l'arpenter, nécessité qui a fait des géographes les premiers voyageurs au long cours. Un jour, dans les âges du commencement, l'homme le plus téméraire de la tribu s'est sans doute mis debout devant le feu, a quitté le halo des flammes et disparu dans la nuit. Sa soif de savoir était plus forte que sa crainte de ne rien connaître. En se lançant dans les ténèbres, il faisait acte de géographe. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.